France Inter. Fabrice Drouel, le 7-9 du week-end.
Eh bien, allons-y, posons-la. Cette question est de concert. Nouveau Monde Édition et le Centre de Documentation Pédagogique posent la question, ce qui donne un livre, un beau livre, préfacé par vous, Henri Mitterrand. Bonjour.
Bonjour.
Ce livre s'appelle « Sans film, du roman à l'écran ». Alors, vous êtes vous-même éditeur et surtout biographe d'Émile Zola, auquel vous avez consacré 50 ans, enfin une bonne partie de votre vie professionnelle, on y reviendra. Dans cette préface, qui est longue comme un chapitre, finalement, hein, vous citez, alors, au tout début, ça saute aux yeux, vous citez Julien Gracq, qui disait la chose suivante, étonnante, « L'image, je cite, hein, l'image ne suggère pas, n'évoque pas, elle est avec une force de présence que le texte écrit n'a jamais. » Ça veut dire, au fond, que le cinéma est toujours supérieur à l'écriture, j'y crois pas beaucoup, supérieur, plutôt complémentaire.
C'est autre chose, oui, elle est complémentaire éventuellement, mais l'idée de Gracq, c'est précisément que l'image du cinéma cadre trop bien un décor, un personnage, et limite dans une grande mesure le pouvoir de rêver qui est celui du livre. Mmh. C'est évident que Julien Gracq se place plutôt du côté d'une lecture des mots, d'une lecture d'un texte qui peut s'interpréter de toutes sortes de manières, enfin qui parle avec le spectateur, qui prend son temps d'ailleurs, alors que l'image, elle a quelque chose d'un petit peu limitatif. Voilà, c'est l'idée de Gracq. Alors, j'ai cité ce texte au départ, j'aurais pu m'arrêter là, mais j'ai essayé d'y voir un petit peu plus clair, oui.
Vous avez remarqué, je pense que les auditeurs s'y retrouveront aussi quand on pose la question à quelqu'un qui a vu un film à partir d'un roman, la personne répond toujours « Ah, mais j'ai préféré le livre ».
Oui. Quand elle connaît le livre.
Hein, oui, quand elle connaît le livre, ça c'est une condition sine qua non.
Il y a des adaptations filmiques qui font le silence sur leurs sources ou alors qui sont parties d'un roman que le grand public. Hein. Mm. On pourrait prendre, que sais-je, des exemples comme l'adaptation des gens de Dublin, par exemple, de Joyce, dans ce film magnifique de John Huston. Rares, sans doute, étaient ceux qui avaient lu les gens de Dublin. Donc voilà, on reçoit le film directement, il plaît ou il ne plaît pas. Évidemment, quand on a affaire à une adaptation de La Bête humaine, le grand film de Renoir, il y a beaucoup plus de chances que le public l'ait lu et se dise « Ah, c'est pas tout à fait ça » ou alors « C'est tellement bien ça ». Voilà, c'est un peu ça effectivement le problème d'adaptation. Est-ce qu'elle est fidèle? Est-ce qu'elle va satisfaire le public du point de vue de la fidélité? Ou bien est-ce qu'il va avoir l'impression d'être trompé?
Il y a une bonne expérience aussi à tenter, c'est de regarder un film, on n'avait pas lu le roman dont le film était tiré, et de lire le roman ensuite. Voilà. Dans ce sens-là, c'est aussi très intéressant.
Ah ben, c'est très intéressant, c'est même, comment dire, sur le plan pédagogique, c'est une des belles fonctions du cinéma, c'est-à-dire d'introduire les spectateurs à la connaissance du texte, ce qui fait qu'un bon film adapté d'un roman, il a plusieurs vertus, finalement. Hein. Il est beau en tant qu'œuvre d'art filmique, il est fortement passionnant aussi, parce que subitement, on va aller lire, que sais-je, Flaubert pour Madame Bovary, ou
Mais avec probablement dans l'esprit le visage de l'acteur ou de l'actrice aussi.
C'est un risque.
C'est un risque.
Effectivement, c'est un risque de brider la lecture et peut-être de l'entraîner sur des sentiers qui ne sont pas les bons. Mais je me suis intéressé à cette question. Je suis cinéphile, mais je ne suis pas du tout filmologue. Je me suis intéressé à cette question précisément parce que voilà, c'était le problème du passage. Hein. Comment le lecteur ressent-il le passage et aussi, surtout peut-être, comment le scénariste se débrouille-t-il pour porter un roman de 400 pages dans les limites d'1h30 de film.
Et ça passe, j'imagine, d'abord par l'écriture cinématographique. Absolument. C'est ça la traduction.
Incontestablement, c'est un point d'entente, d'accord, entre le travail du romancier et le travail du scénariste. Ils sont tous les deux des gens de texte. Hmm. Simplement, ils ont tous les deux d'ailleurs un rapport à l'image. Parce que les romanciers, au moins de la grande tradition, disons, réaliste, ont toujours en tête, quand ils écrivent, le cadrage, les éclairages, les déplacements de personnages, les changements
le décor.
Balzac, voilà, justement, ils pensent visuellement. Mmh. Inversement, le scénariste, quand il adapte, il a d'autres problèmes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il crée d'autres images. Mais c'est ça, la parenté, c'est ça qui est intéressant, bien sûr.
Alors, est-ce que la question de la fidélité du film par rapport au roman est au fond une vraie question? Elle n'est pas obligatoire.
souvent même, il est nécessaire que le scénario s'éloigne du roman pour des raisons d'efficacité, pour des raisons de respect du temps disponible, et puis aussi parce qu'il faut que le scénariste et le réalisateur, peut-être surtout, imposent leur propre vision, leur propre un roman du 19e siècle, que sais-je, La Duchesse de Langeais, comment est-ce qu'on va le porter à la connaissance d'un public de 2010? Il y a une transposition inévitable. Alors, toute la question est de savoir quelle est l'adresse de la transposition.
Oui, autrement dit, comment transcender par l'image la force évocatrice des mots?
Exactement.
Il y a une réponse parmi d'autres, on peut la choisir, moi j'ai envie de dire Kubrick. D'abord parce qu'il est l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma, peut-être le plus grand de tous d'ailleurs, spécialiste précisément des adaptations de romans. Kubrick n'a pas fait un cinéma d'auteur. Alors quoi, Stephen King pour Shining, Arthur Clarke pour 2001 ou Le Disque de l'Espace, Anthony Burgess pour Orange Mécanique et bien sûr William Thackeray pour Barry Lyndon, son chef-d'œuvre, le film parfait, hein, scénario, musique, narrateur, casting, éclairage à la bougie. Moi j'ai toujours eu l'impression, en voyant Barry Lyndon, de me plonger dans un livre sorti tout droit d'une bibliothèque d'un manoir anglais. Et là, pour le coup, c'est le cinéma qui révèle la littérature.
Tout à fait.
Parce que qui a lu William Thackeray, hein, en France, pas beaucoup de personnes.
Effectivement. Et puis, il y a aussi, dans ce film que vous faites allusion,
Barry Lyndon,
une autre révélation. C'est la révélation de la peinture anglaise.
Gainsborough, notamment.
Pas, 18e siècle. Là, on a affaire à un grand talent, alors qui peut se permettre éventuellement des infidélités quant à la structure narrative, à l'intrigue. Il peut supprimer les personnages, en ajouter d'autres. L'essentiel, c'est qu'ils respectent l'esprit, l'atmosphère de l'époque et la vérité des caractères. Mais on peut penser on évoquait tout à l'heure le guépard de l'Amérique.
Ah, bien d'autres,
voilà, oui. Il a pris des libertés. Et il a coupé toute la fin du roman. Mm-hmm. En revanche, il a étendu au maximum la fameuse scène du bal. Mais il le fait parce qu'il a une espèce de compréhension intime de ce que signifie le roman. Il va rendre l'atmosphère de cette Sicile de 1860 qui voit s'effondrer tout un pan de l'histoire italienne, la mort de la monarchie, l'arrivée des Garibaldiens, etc. Enfin, c'est un changement d'époque et de société. Bon, on comprend que ça ait passionné Visconti.
Alors, ce livre qui s'appelle, on revient au livre que vous présentez, c'est mieux dire présenter que préfacer, ce livre qui s'appelle donc 100 films du roman à l'écran, mais qui a eu l'idée du livre? Est-ce vous?
Non.
Bon, c'est l'éditeur. Qui a choisi les films?
Eh bien, c'est une espèce de consensus, c'est-à-dire que les quelques professeurs qui sont talentueux en tant que critiques de cinéma et pas seulement professeurs de littérature ont été réunis par le Centre national d'alimentation pédagogique. Chacun a établi sa liste et puis c'est comme dans les commissions parlementaires. On a discuté, on a taillé, on a choisi. Donc c'est un travail collectif. Moi-même, j'ai revu la liste et j'ai suggéré qu'on ajoute ou qu'on retire tel ou tel film.
Oui, ça voilà. Donc, facile.
Voilà, mais je pense que le choix est intéressant sur toutes sortes de plans. D'abord parce que tous les genres sont représentés. Hein. Le cinéma populaire, le cinéma grand succès, Dernier des Mohicans,
aussi,
que sais-je.
Des pays différents.
Des pays différents, bien entendu. Et puis, en même temps, la liste en question, les 100 films en question, comportent un certain nombre de films qui sont précisément des adaptations de grands romans. Ce qui fait que dans une classe, comme maintenant on étudie le cinéma tout de même, heureusement dans les lycées, on peut choisir des œuvres qui vont être étudiées sur les deux plans. Ça donne de la vie à la classe.
Alors finalement, à qui s'adresse ce livre?
Oh, il s'adresse... moi, quand j'ai lu les...
Parce que quelquefois, c'est un peu exigeant, mais c'est à la fois grand public et exigeant.
Bien sûr. Non, mais c'est exigeant à la fois parce qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi à des professeurs ou à des lycéens ou des étudiants qui, je pense... En particulier dans les écoles de cinéma ou les cours de cinéma dans les facultés peuvent trouver bénéfice à ce livre. Mais j'ai l'impression qu'il peut intéresser aussi les gens de métier.
Oui.
Parce que un homme qui débute dans le cinéma ou même qui a déjà certaines expériences ne connaît certainement pas toute la bibliothèque des films, toute la filmothèque. Donc il va trouver là des fiches, des commentaires. Je dirais presque que ça peut donner des idées.
Oh. Henri Mitterrand, vous qui êtes un spécialiste, un grand spécialiste d'Émile Zola, est-ce que vous pensez que le cinéma a servi de façon pertinente, réussi l'œuvre d'Émile Zola à travers quelques films, quelques romans devenus films?
Je dirais oui et pas tout à fait oui. Enfin oui, parce que il y avait une espèce de parenté immédiate entre le cinéma et l'imaginaire visuel de Zola. Les Halles dans le ventre de Paris, les grands magasins, la mine dans Germinal,
c'est un décor
ça,
en soi.
C'est une mine, précisément, pour des scénarios. Je dirais pas tout à fait, parce que il y a chez Zola une dimension qui n'est pas toujours bien comprise, quoi qu'elle soit ressentie, c'est la dimension du rêve, un peu du délire, de la folie, du sens épique. Vous voyez, Germinal, c'est l'histoire de Thésée défiant le Minotaure. Ça passe difficilement au cinéma.
Merci en tout cas, Henri Mitterrand. Je rappelle le titre de ce livre, Sans film, du roman à l'écran, Nouveau Monde Édition. Il est 8h30.